Radio Kapi. Oh, Kapi. Blaise Mbadi. Blaise Ndali Kambala pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici les titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé samedi dernier à Kinshasa au lancement d'une table ronde nationale définissant le cadre stratégique national intégré pour lutter contre les cancers féminins. Les détails dans quelques instants. Une centaine de véhicules bloqués sur la nationale numéro 4 à une cinquantaine de kilomètres de Kisangani. Au moins 4 points chauds rendent la vie difficile aux usagers de cette route, notamment au point kilométrique 59. D'ici le 30 octobre en cours, le projet d'accompagnement des communautés locales et des peuples autochtones dans la gestion durable des forêts va arriver à terme après 7 ans d'exécution. Pour en parler, nous recevons le professeur Alphonse Maïndo, directeur des Trombébons RDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir. 14 morts, bilan encore provisoire d'un incendie survenu cette nuit à Founou, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Selon nos sources, le drame s'est produit près de l'église Founounourou, sur l'avenue Maendeleo, dans le quartier Mossala. Un feu d'origine inconnue s'est déclaré alors que les victimes étaient endormies. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Définir le cadre stratégique national intégré pour lutter contre les cancers féminins, c'est l'objectif de la table ronde nationale lancée à Kinshasa ce samedi par la première ministre Judith Suminwa. L'intégration des cancers féminins comme priorité de la couverture santé universelle figure parmi les résultats attendus dans ces assises. Organisée par le ministère de la Santé, cette première table ronde nationale a connu la participation de la première dame de la République en qualité de la marraine de rose. Reportage Luc Inzao.
Selon le Centre national de lutte contre le cancer de la RDC, chaque année plus de 20 000 nouveaux cas de cancer féminin sont enregistrés. Une situation que le ministre de la Santé, Roger Kamba, qualifie de dette nationale envers les femmes.
Chaque minute qui s'écoule dans notre pays voit une femme affronter un symptôme qu'elle ne comprend pas. Elle consulte trop tard ou renonce faute de moyens. Alors, chaque minute qui passe voit une femme en danger. Voilà le vrai visage du cancer du sein et du col de l'utérus. Non seulement une tragédie sanitaire, mais une dette nationale envers nos femmes que nous venons ensemble reconnaître, comprendre et commencer à rembourser.
Pour Judith Suminwa, cette rencontre affirme l'orientation de l'État qui choisit de protéger la femme.
Nous ne sommes pas simplement réunis pour ouvrir une rencontre technique, mais pour affirmer une orientation politique majeure, celle d'un État qui choisit de défendre la vie, de protéger la femme et de restaurer la dignité par la santé. Notre ambition n'est pas seulement de sauver des vies, mais de bâtir un système de santé qui inspire confiance et suscite l'adhésion du peuple.
Des médecins congolais seront formés en chirurgie du cancer au Maroc, a annoncé le ministre de la Santé, Roger Kamba.
Santé encore, des 500 cas de polio en 2022 à moins de 10 cas en octobre 2025 en RDC. C'est le résultat des avancées sur la lutte contre la polio en République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été rendus publics par Losamba Kabamba, coordonnateur de tous les partenaires techniques et financiers de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio à l'occasion de la Journée mondiale de la polio célébrée le 24 octobre de chaque année. Ces résultats sont le fruit des efforts de tous les partenaires qui ne se lassent à fournir de moyens nécessaires pour la vaccination des enfants. C'est entre autres la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, l'OMS et Rotary Club. Docteur Losamba Kabamba a, par la même occasion, émis le vœu de voir la polio être éradiquée sur toute l'étendue de la RDC d'ici 2026. On l'écoute au micro de Stanislas Djoumi.
Les grandes avancées se résument en deux éléments, volonté politique et efficacité stratégique. Et c'est là où apparaît l'efficacité stratégique. Il y a ces groupes-là, collaboration-là. Ensemble, avec cette stabilité de la coordination, ça a permis d'avoir des ressources humaines de qualité. Ça nous a permis d'améliorer la qualité de la vaccination, les campagnes de vaccination. Je vous ai dit tantôt, on était à plus de 500 cas en 2022. plus de 500 enfants paralysés. Aujourd'hui, en 2025, au mois d'octobre 2025, on a isolé 8 virus dans les pays. Donc, vous voyez un peu d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui. On parle de moins de 10. Et l'année prochaine, l'idée, c'est qu'en 2026, nous soyons à mesure de venir, d'avoir une réunion, une rencontre pareille, une séance pareille, une session pareille, et dire tout haut qu'avec les efforts de tout le monde, du gouvernement, des partenaires, vos efforts sur le terrain, on a atteint zéro.
Éducation à présent. L'inspecteur général de l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, encourage ses collaborateurs à fournir un travail de qualité dans les écoles. Lors d'une réunion de travail tenue ce samedi avec les inspecteurs principaux provinciaux IPP de Kinshasa, il a insisté sur la gratuité du contrôle de qualité de l'enseignement. À travers ces injonctions, l'inspecteur général a également exprimé le souhait que l'inspection de l'éducation nationale redevienne le pilier de la transformation du système éducatif et que l'école reste le lieu par excellence d'apprentissage et de savoir pour les enfants. Hubert Kimbonza au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
On avait jugé mieux échanger avec nos collaborateurs de la ville-province de Kinshasa, le 5 IPP avec leurs principaux provinciaux adjoints, pour leur donner les grandes lignes, les grandes directives de son Excellence Madame le Ministre d'État. Et nous avons pu adresser le message de l'autorité, celui de faire en sorte que l'inspection de l'éducation nationale redevienne les piliers pour la transformation qualitative de notre système éducatif. Parce que c'est l'inspecteur qui contrôle l'enseignement dans des salles de classe, c'est l'inspecteur qui découvre les insuffisances auprès des enseignants et donc il faut fournir beaucoup plus d'efforts. Si l'inspecteur arrive à déceler des erreurs, arrive à les corriger, ainsi donc sur terrain l'enseignant fera un bon travail et le produit qui sera demain appelé finaliste et aussi diplômé et ses fruits soient celui qui sera inattaquable dans les jours à venir. Donc c'est dans ce sens-là.
Dans le secteur de l'éducation nationale, les missions des inspecteurs consistent, entre autres, à assurer le contrôle pédagogique, à évaluer les enseignants et les établissements, à vérifier le respect des programmes et à accompagner les réformes éducatives dans les pays. Au Nord Kivu, les enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 3 interpellent la Caritas et demandent les paiements réguliers de leurs salaires. Pendant que le mois d'octobre touche déjà à sa fin, ils disent attendre encore leur salaire de septembre. Ils dénoncent les retards récurrents, affirmant qu'ils doivent sans cesse lancer des alertes pour être payés. C'est Lobandu Bauma Exaucé, secrétaire exécutif du syndicat national des professeurs de l'enseignement dans cette province éducationnelle qui couvre les territoires de Masisi et Rutshuru. Il est temps de mettre fin aux arriérés et de verser les salaires ainsi que les primes de gratuité sans attendre les réclamations des enseignants. On écoute M. Bandu Bauma Exaucé au micro de Rosalie Zawadi.
Après avoir élaboré un calendrier qui pourra terminer tous les arriérés, et cela par la Caritas, l'IFORD et la CENCO, ils se sont mis ensemble et écrit un mémo qui vont devoir terminer tous les arriérés juste vers la fin du mois de septembre. Mais malheureusement, quand ils ont élaboré leur calendrier de paiement, ils se sont seulement arrêtés au mois d'août, tout en omettant même toutes les primes de gratuité et les frais de fonctionnement. Pendant que, aux écoles primaires, aucun enseignant qui peut être motivé sans être payé sa prime de gratuité, aucune école à l'école primaire, aucun bureau gestionnaire qui peut fonctionner sans frais de fonctionnement, mais hélas, les gens de la Caritas et Saint-Delifaud ne cessent toujours d'agendrer des arriérés chaque jour. Pendant que le mois d'octobre est des gens domiciliés dans leur compte, mais malheureusement, chez nous, le mois de septembre jusque-là n'est pas encore payé.
Contactés, les autorités de la Caritas précisent que les fonds transférés par Kinshasa pour le paiement des enseignants ne couvraient que la période allant jusqu'au mois d'août et que ces salaires ont déjà été versés. Elles invitent les enseignants concernés à se présenter dans leur bureau pour toute clarification ou réclamation plutôt que de passer par les médias. Dans les mêmes registres, les enseignants de la sous-division éducationnelle Calais et Troyes au sud Kivu attendent toujours leur salaire qui tarde à venir. D'après eux, le retard est causé par certains organismes mandatés par les gouvernements pour effectuer la paix. Selon Bahati Matabaro, leur représentant syndical, si rien n'est fait, ils vont bientôt accumuler 2 mois d'arriéré des salaires. Il alerte sur les conséquences de cette situation au sein des ménages de ces professionnels de la craie. Il est joint par Ronéline Thibonera.
Vu que l'enseignant souffre et il n'a plus un autre moyen, il a seulement la charge aussi de payer pour ses enfants à l'université comme dans des écoles secondaires et autres. Nous demandons au gouvernement encore d'interpeller l'IFOD et la Caritas, de mettre l'enseignant en ordre, en fait de ne pas passer aux actions plus supérieures que les actions déjà passées. Nous félicitons également le gouvernement de vous pouvoir penser toujours à l'enseignant comme le gouvernement de l'ESS, de continuer toujours à militer pour que l'IFOD et la Caritas songent vraiment à l'avenir de l'enseignant. Le salaire de l'enseignant, c'est un caractère alimentaire. On prive l'enseignant ce salaire, c'est plus qu'on le dit.
Nos tentatives pour joindre les responsables de la Caritas et de l'IFOD afin d'obtenir leur version des faits sont restées sans issue. Une centaine de véhicules bloqués sur la nationale numéro 4 à une cinquantaine de kilomètres de Kisangani. En cause, des bourbiers qui ne facilitent pas la fluidité de la circulation sur cette route d'intérêt socio-économique capital. Cette situation est décriée tant par les passagers que par les conducteurs des véhicules. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Moins 4 points chauds rendent la vie difficile aux usagers de cette route, notamment au point kilométrique 59. Ici, plus de 100 véhicules attendent de continuer leur voyage dans les deux sens. Parmi les passagers, on compte des femmes et des enfants obligés de passer la nuit à la Belle Étoile. Jeff Moké, l'un d'eux, exprime son regret.
Je pars vers Bunyame. Depuis hier, nous étions bloqués ici depuis 11 heures. On nous bloque vraiment. Nous sommes en train de chercher le canal où nous allons passer aussi.
Les conducteurs des véhicules ne comprennent pas comment cette route ne soit pas maintenue dans un état de praticabilité permanent alors qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour les taxes officielles, hormis des sommes injustifiées.
Vous payez à Beni, vous payez à Mangina, à Bela, à Matiti. À partir des quittances, vous pouvez vous rendre compte que nous dépensons au même $500 à partir de là jusqu'à Kisangani.
Les usagers de la nationale numéro 4 demandent aux autorités provinciales de la Tchopo de s'investir pour la réhabilitation de cette route, car, déclare-t-il, elle n'est dégradée que dans cette entité. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans un autre registre, le collectif des femmes leaders de Kasongo dans la province du Maniema ont célébré vendredi 24 octobre dernier la journée internationale de la femme rurale en plantant les cacao dans leurs champs pilotes. En présence de l'autorité territoriale, ce collectif des femmes leaders de Kasongo a demandé l'accompagnement de tout le monde, en particulier celui des autorités pour que la culture des cacao soit pérennisée dans ce territoire ainsi que dans toute la province du Maniema. Florence Kizalunga pour le reportage.
C'est dans cette ambiance que les cacao ont été plantés dans ces champs pilotes du collectif de femmes leaders de Kasongo. La présidente de ces collectifs reste convaincue qu'avec cette culture, les femmes de Kasongo en particulier vont émerger économiquement. Sa fille est Ramazani Thérèse.
Nous sommes dans le développement durable. Le développement durable demande les activités qui vont être pérennisées. Nous avons toujours l'habitude de planter les maïs, les arachides, les haricots, tout ça. Mais quand nous faisons la vente de tout ça, ça nous amène à rien. Mais quand on plante les cacao, nous avons de l'expérience de nos semblables de Nord et Sud Kivu. Mais ces femmes sont devenues vraiment, on peut dire que ce sont des femmes patronnes parce que ils ont une économie qui est consistante. La culture qui est entamée aujourd'hui avec l'aide du Seigneur, ça va aussi nous faire progresser. Ça va nous faire émerger aussi dans le monde économique.
Présent à cette cérémonie, l'administrateur du territoire de Kasongo félicite ces collectifs et encourage les autres notre femme ainsi que toute la population à promouvoir cette culture. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En plus bref, rendons-nous au Congo central. 18 entités territoriales décentralisées et zones périurbaines de cette province sont ciblées pour accueillir la deuxième phase du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC, PCA en sigle, financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains. Ce programme qui vise à améliorer et à étendre durablement l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement dans plusieurs provinces du pays était ce vendredi au centre d'un atelier de validation des zones d'intervention du projet TENU à Matadi. Le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Bilolo, qui a procédé au lancement de cette activité, salue l'avènement de ce projet, lequel contribuera au développement durable centré sur la santé publique et le bien-être social.
Actualité internationale.
Les partisans d'Issa Tchiroma Bakari sont descendus dans les rues du Cameroun ce dimanche 26 octobre. L'opposant, qui revendique sa victoire à la présidentielle du 12 octobre, avait lancé un appel à des rassemblements pacifiques. 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans les manifestations à Douala, selon le gouverneur de la région du littoral. Le ministère de l'administration territoriale indique de son côté que 106 interpellations administratives ont également eu lieu. Le conseil constitutionnel camerounais annoncera ce lundi matin les résultats officiels de l'élection.
L'invité.
D'ici le 30 octobre en cours, le projet d'accompagnement des communautés locales et des peuples autochtones dans la gestion durable des forêts va arrivé à terme après 7 ans d'exécution. Financé par le gouvernement néerlandais, ce projet est mis en œuvre par Trombebos RDC. En vue d'assurer les difficultés persistantes et progrès réalisés sur terrain, le directeur de cette organisation a effectué ce week-end une mission de supervision dans les territoires des Bafoua-Sendé. Il répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Professeur Alphonse Mayindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une mission de supervision à Bafoua-Sendé. En quoi a consisté le projet qui va bientôt prendre fin?
Alors, disons que ce projet se termine à la fin de ce mois d'octobre et il était complété par un autre projet. Parce que quand vous êtes en train d'appuyer les gens à faire une gestion, si vous voulez, harmonieuse, durable, inclusive d'un espace, ça peut créer également des situations de friction, de tension entre les gens, parce que dans toute situation nouvelle, il y a toujours un changement de relation de pouvoir. Il y a un glissement de relation de pouvoir. Et tout glissement de relation de pouvoir entraîne également de conflits et de tensions possibles. Alors, pour prévenir tout ça et également essayer de faire des plaidoyers pour que ça se consolide, nous avions un programme complémentaire. Et ce programme-là visait justement à former les gens sur le droit, mais également pour faire des plaidoyers pour créer aussi des espaces pour qu'ils défendent leurs droits et leurs intérêts en tant que communauté locale. Et ce sont ces deux programmes-là qui se terminent pratiquement au même moment, ici, à la fin de ce mois. Mais nous avons donc ce nouveau programme qui vient. Et à côté de ce nouveau programme, nous avons aussi un programme qui a commencé l'année dernière, qui vise à faire aussi des CFSL. Nous avions déjà commencé, en quelque sorte, à faire une mise à échelle pour dupliquer, si vous voulez, dans d'autres endroits, avec les projets sécurisation forestière et des moyens d'existence de communautés locales, CFOMEPAC, avec un autre partenaire Tenu Facility. On a dupliqué ça, pas seulement ici à Bafoua-Sendé, notamment dans un nouveau secteur de Bémili, mais nous avons aussi été dans d'autres territoires.
Quelle évaluation faites-vous de tous ces projets antérieurs que vous venez d'énumérer?
Je dois vous dire que, de manière générale, sans beaucoup de fausses modesties ou sans vouloir nous encenser, je dois dire que je suis très 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 fier de mes équipes de terrain, de tous mes collègues qui ont réalisé vraiment un travail appréciable et je les sens et je les vis ici lors de cette mission de supervision. C'est une mission qui n'a pas été annoncée, si vous voulez, aux gens. Je surprends les gens, mais les témoignages que j'entends des communautés, des bénéficiaires, ça me réconforte, ça me donne beaucoup de joie et ça me donne encore beaucoup plus d'énergie pour pouvoir dire il faut que je continue à m'investir davantage pour ramener davantage de nouveaux projets pour répondre, pour améliorer les conditions de vie des gens ici.
Professeur Mayindo, à quelques jours de la fin de ce projet, vous avez procédé à l'installation d'un chef de bureau de terrain à Bafoua-Sendé et c'est opportun.
Et justement, c'est puisque ce projet que nous étions en train de mettre en œuvre est arrivé à terme, d'ici quelques semaines, ça va terminer, qu'il fallait trouver des mécanismes de durabilité pour que les résultats qu'on a pu engager puissent être capitalisés et même, si vous voulez, mis à échelle pour d'autres endroits. Et c'est pour ça qu'il fallait faire une coordination, mettre quelqu'un en place. Et nous n'avons pas attendu la fin du projet pour le faire. Nous avions déjà commencé à penser avant. Nous avons trouvé un nouveau financement qui nous permette justement de faire ce travail, d'interconnecter les différents CFSA qui existent, mais aussi d'inciter les gens qui sont autour de cet espace, qui ne sont pas encore dans le processus, de rentrer également dans le processus pour créer un espace de corridor écologique le long de la RN4 avec les communautés avec lesquelles nous travaillons. Et donc, on a eu donc ces financements qui nous permettent de faire ça et de consolider les résultats qu'on a pu avoir, les capitaliser pour les pérenniser. Et après, on pourrait alors envisager d'aller dans d'autres endroits. Et c'est ça l'essence de ce que nous avons fait ici.
Quelle est la dénomination du nouveau projet et quelle en est sa spécificité par rapport au projet précédent?
Alors, le nom du projet lui-même, c'est des ponts pour la biodiversité. La spécificité, c'est que c'est un projet qui vise à faire en sorte qu'on puisse avoir un grand couloir écologique vert pour permettre à toute la diversité biologique de ces écosystèmes forestiers puisse survivre à travers un certain nombre d'activités qui vont consister, entre autres, à une gestion durable des forêts, mais aussi, si vous voulez, à donner aux gens des alternatives pour ne pas continuer à déforester. On va encore faire aussi de mécanismes en place juridiques d'accompagnement des communautés pour que les gens qui continuent à violer les droits des CFSL et des communautés ne puissent pas continuer à le faire impunément. Et donc, pour ça, il y aura une dimension juridique assez importante et de mettre en place les règles coutumières avec des sanctions qui vont avec et qu'on va faire entériner par le pouvoir étatique et publier au journal officiel pour que ça soit opposable envers les tiers.
Professeur Alphonse Mahindo, merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité, le professeur Alphonse Mahindo, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkole. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du Journal du Matin qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jude Mister Bilandankouma et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.